Désiré Bois, le cannelier. C'est à la famille des Lauracées qu'appartient le genre Cinnamomum, dont plusieurs espèces sont bien connues pour leur écorce renommée, cannelle. Le cannelier de Ceylan, Cinnamomum zeylanicum, qui croît à l'état sauvage dans l'Inde et en Malaisie, fournit la cannelle la plus appréciée. C'est un petit arbre d'une dizaine de mètres de hauteur dont toutes les parties contiennent une huile essentielle aromatique. Les feuilles sont persistantes, opposées, pétiolées, sans stipules ovales ou ovales oblongues d'environ 15 cm de longueur sur 4 à 5 cm de largeur. Coriace glabre, d'un vert brillant à la face supérieure, glauque en dessous. Les fleurs, petites, blanches ou jaunâtres, sont réunies en grappes de cyme, les ramifications des grappes étant décussées comme celles de la tige. C'est cette espèce qui fournit la véritable cannelle de Ceylan. La cannelle est la plus ancienne des épices. Elle est souvent citée dans la Bible et les Chinois l'ont utilisée de tout temps. Les anciens la recevaient des Indes, par l'Éthiopie et l'Arabie, d'où on l'a transporté à Alep, puis plus tard à Alexandrie, de là en Grèce et en Italie. La cannelle passa ensuite par l'intermédiaire des Arabes aux mains des Vénitiens qui la portèrent en Europe après la ruine des empires grecs et romains. Les Portugais parurent à Ceylan en 1505 et se firent payer un tribut en cannelle. Ils en furent les uniques importateurs jusqu'en 1645, époque à laquelle ils partagèrent ce monopole avec les Hollandais qui en obtinrent l'entier privilège en 1658 et qui conservèrent ce monopole absolu jusqu'en 1796 lorsque Ceylan fut soumis à l'Angleterre. Le commerce de la cannelle ne devint libre qu'en 1832, la Compagnie des Indes orientales l'ayant gardé jusque-là. Pour le cannelier, comme pour les autres plantes à épices que nous avons examinées, les opérations de ce trafic étaient faites jadis par les agents du pouvoir et les lois qui les réglaient étaient si oppressives, si cruelles que la vente ou le don d'une seule branche de cannelier était considérée comme un crime puni de mort. Les Anglais abolirent ces barbares restrictions. Poivre avait réussi à cultiver le cannelier de Ceylan à l'île Maurice, d'où il se répandit en d'autres pays. Dans l'Antiquité, la cannelle était considérée comme un produit pour les fumeurs. Elle figurait parmi les présents offerts dans les temples avec les épices de luxe dans les grandes pompes. Elle servait pour la préparation d'huile et de pommade et on l'appréciait pour le vin aromatisé. Sa patrie n'était pas encore connue de manière précise au Moyen Âge. La cannelle de Ceylan est l'écorce préparée des jeunes tiges de l'arbre. Elle se présente dans le commerce sous forme de lames très minces, cassantes, dont les bords longitudinaux sont tous deux enroulés en dedans, ces lames étant emboîtées les unes dans les autres. La cannelle possède des propriétés toniques et excitantes. Elle est un stimulant aromatique, carminatif et astringent, et sa consommation s'accroît sans cesse, soit comme épice, soit pour l'huile essentielle qu'on en retire par distillation. D'autre part, l'essence distillée des feuilles de moindre valeur est plus demandée que celle de l'écorce et sert à la préparation de l'eugénol et de la vanilline. Le cannelier de Ceylan est cultivé surtout dans l'île dont il porte le nom. On peut le multiplier par graines qu'il faut semer bien mûres et bien fraîches et aussi par boutures. Les branches les plus voisines du sol sont courbées, enterrées et laissées dans ces conditions jusqu'à ce qu'elles soient enracinées. On les sépare alors des plantes mères pour les mettre en place à une distance de 4 à 5 mètres les unes des autres. Pour faire prendre au cannelier la forme de buisson qui est particulièrement favorable à la récolte des écorces, on taille leur tige principale un peu au-dessus de terre. Vers la sixième année, les rogers atteignent de 1,50 m à 2 m de hauteur et sont en état d'être écorcés. On les coupe et les nouveaux sujets qui naissent de leur base peuvent être cueillis 2 ans après. Une récolte de tiges est ainsi produite tous les 2 ans. À Ceylan, la taille se pratique en mai et en octobre, là où les pluies sont les plus abondantes. Les tiges sont alors gorgées de sève et se décortiquent facilement. Après les avoir tranchées au niveau du sol au moyen d'une hachette spéciale, on supprime leurs extrémités tendres, ce qui les réduit à une longueur variant entre 1 mètre et 1 mètre 50. On les effeuille, on incise circulairement l'écorce aux bases des entre-nœuds et jusqu'au bois, puis on relie longitudinalement ces incisions par d'autres, une de chaque côté de la tige. Ensuite, à l'aide d'un bâtonnet court et épais en bois dur, on tapote l'écorce qui se soulève et qu'on détache en glissant entre elle et le bois une sorte de couteau en cuivre. On obtient de cette manière des bandes d'écorce. Ce travail étant terminé, on coupe les écorces pour leur donner une dimension uniforme, soit 30 cm ou un peu plus, puis on les fait sécher à l'ombre, sous des hangars, sur des clés. Après 2 jours, la dessiccation peut être achevée au soleil. Au fur et à mesure qu'elles se dessèchent, les écorces s'enroulent sur elles-mêmes. Elles prennent l'aspect de tubes que l'on emboîte les uns dans les autres en les assortissant. Cette cannelle ainsi apprêtée est la plus appréciée des consommateurs. L'écorce des tiges trop épaisses pour être traitées de cette façon et celles des tiges qui s'écorcent difficilement ont une valeur commerciale moindre. Elles constituent les chips ou déchets utilisés surtout pour la préparation de l'essence de cannelle proprement dite. La qualité des écorces dépend aussi de leur teneur en essence, suivant qu'elles proviennent de l'extrémité supérieure des branches, de la partie médiane ou de leur base. Les premières sont les meilleures. Ceylan est le principal pays producteur de la cannelle dite de Ceylan, et c'est dans le sud et l'ouest de cette île qu'on trouve les plus importantes plantations de canneliers, notamment dans les districts de Galle et de Colombo. Les meilleurs résultats au point de vue de la culture sont obtenus dans les terres d'alluvions très sableuses ou dans les sols quartzeux, blancs, à sous-sol bon et riche, aux altitudes inférieures à 500 mètres, où règne une température moyenne annuelle de 30 degrés centigrades environ et où la chute moyenne annuelle de pluie dépasse un peu 2 mètres. L'exposition au soleil influe sur la qualité de l'écorce des canneliers qu'elle améliore. Comme engrais, on recommande l'emploi du tourteau de copra et du fumier de vache. Il ne semblait pas que, jusqu'à ce jour, la culture commerciale de Cinnamomum zeylanicum ait été entreprise dans l'Inde anglaise, bien que cette espèce y vive à l'état spontané. Aux Seychelles, où cet arbre à épices fut introduit vers 1775 grâce à notre compatriote Poivre, il se naturalisa et se répandit partout sans donner lieu à une exploitation. C'est seulement en 1906 que l'on commença à y pratiquer la distillation de l'essence de l'écorce et des feuilles. L'huile essentielle des feuilles a retenu tout particulièrement l'attention depuis 1916. En 1915, on comptait 12 distilleries. En 1920, 44 distilleries produisaient 50 000 litres et en exportaient 39 000 litres 507. On voit en Chine et en Indochine d'autres canneliers qui, jusqu'en 1909, étaient considérés comme appartenant à deux espèces distinctes. Le Cinnamomum cassia bloom, ou cannelier de Chine, et le Cinnamomum lourei, Ness, ou cannelier d'Annam et du Tonkin. À cette date, messieurs Perrault et Eberhardt ont établi dans le bulletin des sciences pharmacologiques que ces deux plantes doivent être attachées comme simple variété au Cinnamomum obtusifolium, qui croît à l'état sauvage dans les parties montagneuses où on le rencontre jusqu'à plus de 2 mètres d'altitude. C'est le cannelier d'Annam, arbre haut de 13 à 17 mètres, à écorce d'environ 7 à 9 mm d'épaisseur, très homogène, d'un brun grisâtre et dont la coupe gris-verdâtre à l'état frais présente une section brune à l'état sec. C'est la variété cassia qui fournit à la droguerie l'écorce connue sous le nom de cannelle de Chine. L'écorce de cannelle de Chine du commerce se vend sous forme de tube à parois beaucoup plus épaisse que celle de la cannelle de Ceylan, composée d'une ou de deux écorces enroulées de couleur fauve, long de 20 à 30 cm. La face externe est pourvue de son liège. Elle est grisâtre et présente les impressions des points d'attache des feuilles qui sont elliptiques. La face interne est brunâtre, entièrement lisse et finement granuleuse. La cassure est nette, grumeleuse, non fibreuse. L'odeur forte, peu agréable, rappelle celle de la punaise. La saveur est chaude et piquante. L'âge des arbres sert à évaluer dans le commerce chinois le prix des écorces, celles des plus âgées étant les plus cotées. D'abord celle du tronc, puis des grosses branches et enfin des petits. Comme nous l'avons dit précédemment, la cannelle de Chine est récoltée dans les deux provinces méridionales de la Chine, le Guangxi et le Guangdong. De mémoire d'homme, écrivent Perrault et Eberhardt, on n'a pas trouvé de cannelier sauvage dans cette contrée. Tous les canneliers exploités sont cultivés et la variété à laquelle ils appartiennent serait née, d'après eux, de la culture fort ancienne de Cinnamomum obtusifolium ou cannelier d'Annam, qui, lui, est traité à l'état spontané. Cette culture est d'ailleurs tout à fait rudimentaire et pratiquée chez quelques Moïs, Païs et Sédang, encouragés par les missionnaires en Annam. Le cannelier d'Annam existerait à l'état sauvage dans toute la longueur de la chaîne annamitique avec comme principale province d'exploitation Tan Hoa, Nghe-an dans le nord, et celle de Quang Nam et de Quang Ngai dans le centre. Le marché le plus important est Trami, centre très riche mais malsain, dans le voisinage des tribus Moïs, qu'ils cultivent un peu ce cannelier autour de leur case et dans quelques jardins, mais qui surtout écorcent les pieds sauvages. La denrée y est connue sous le nom générique de Kwe. L'histoire de l'exploitation de la cannelle en Annam que nous avons racontée, G. Capus et moi, dans notre livre « Les produits coloniaux », Paris 1912, est intéressante pour ses répercussions économiques inattendues puisque d'une mesure fiscale inopportune a dépendu le sort de la pénétration annamite dans l'intérieur de l'Annam. Voici comment. Le roi Ming Mang donna le monopole du commerce de la cannelle à son frère Qian An. Celui-ci fit instituer les fonctions de Yan Mei, ou chargé du commerce. Ces Yan Mei étaient ses représentants et avaient dans leurs attributions la défense de la frontière qu'il était interdit de franchir sans autorisation. Celle-ci n'était octroyée qu'à des Lei Buan, ou patrons de commerce, qui allaient pour le compte des Lan Mei exercer un trafic très lucratif dans les populations sauvages. L'œuvre de la colonisation des villages annamites, commencée déjà, fut ainsi arrêtée au profit d'un monopole. Les Chinois les plus lésés dans l'affaire surent vite, avec leur habileté bien connue, se plier à la circonstance. Les Lei Buan devinrent rapidement leurs agents plus que ceux des Lan Mei, parce qu'ils recevaient des marchands chinois prêts d'argent et pacotilles d'échange. Lorsque l'administration voulut organiser la régie des cannelles, elle se trouva non devant des commerçants annamites, mais devant des créanciers chinois. Une expédition de récolte dans l'intérieur par les Lebuan dure quelques semaines. C'est alors en village Moi, liesse et grande fête, où sont vidées force jarres de vin de riz. Le trafiquant abuse volontiers de l'ébriété du vendeur pour conclure son marché. Parfois, les Moïses dégrisés, s'apercevant qu'ils ont été dupés, prennent leurs arcs et leurs lances, s'entourent le corps de bandes de linge pour se protéger et foncent sur le premier village annamite à leur portée afin de se venger sur ses habitants. On voit d'ici ce qui se passait avant que nos postes avancés de milice y missent un peu d'ordre. La cannelle de Chine est si précieuse que celle de la province de Tanhua, sa qualité supérieure, se vend à prix d'or, de 15 à 20 fois plus cher que les autres sortes. La cour de Hué en reçoit, en matière de tribut, 1,750 kg. Quand le roi d'Annam en désire davantage, une expédition est organisée par les Muang. Lorsqu'un arbre est découvert, sa valeur est appréciée par les mandarins, qui la sous-estiment de 5 à 10 fois. Et comme rarement les Muang qui ont trouvé l'arbre sont payés, ils ne tiennent guère à participer à pareille exploration. Par ailleurs, le commerce de cette cannelle, si recherché, est clandestin. L'écorçage de ces canneliers se fait au moment de la montée de la sève, comme cela se pratique à Ceylan pour le Cinnamomum zélanicum. L'arbre est incisé longitudinalement sur le tronc jusqu'à 10 à 20 cm du sol en plusieurs quartiers qui sont divisés par des incisions transversales et enlevés à l'aide d'une spatule en corne ou en os. La même opération est effectuée sur les branches. Les lames d'écorce fraîche fixées sur des planchettes de bois pour qu'elles ne se recroquevillent pas, sont séchées au soleil, empaquetées et livrées au marché où elles subissent un tri par qualité après diverses manipulations. La culture du cannelier de Chine devrait être beaucoup plus répandue en Indochine, bien qu'elle ne rapporte pas avant la 7e année. La pléthore du marché n'est pas à craindre, puisque la Chine absorbe toutes les quantités offertes, non seulement comme condiment, mais surtout comme produit pharmaceutique. Il n'y a pas d'ordonnance de médecin chinois sans cannelle. Le marché français consomme principalement de la cannelle de Ceylan, mais achète de plus en plus celle de l'Annam. Il est peu de produits coloniaux dont le prix des sortes commerciales présente d'aussi grosses différences. Quechi, des petites branches de 1 franc 50 à 2 francs le kilo. Quequan, des branches moyennes de 3 à 5 francs. Nunque, des grosses branches et du tronc de 15 à 30 francs. Il n'est pas jusqu'au brindille, jusqu'au déchet, si insignifiant soit-il, qui n'ait une valeur. On cite certaines exploitations de canneliers sauvages qui ont rapporté à leurs découvreurs des sommes considérables. Les exportations de grande écorce ont été en 1932 de 46 tonnes en presque totalité sur Hong Kong, d'où elles sont expédiées en Chine. La cannelle de Chine de la province de Guangxi, à l'ouest de Canton, est exportée par Canton et Hong Kong sous le nom de Cassia linea de Canton. La cannelle de Saïgon, inscrite à la pharmacopée des États-Unis en 1894, est renommée comme étant de qualité très supérieure à la cannelle de Chine, proviendrait en partie de cultures existant en Cochinchine. Elle dériverait du Cinnamomum tamala. Le Cinnamomum tamala serait cultivé dans l'Assam, Inde anglaise, particulièrement pour la production des feuilles. Selon Watt, les indigènes du Manipur récolte l'écorce de la racine de cette espèce, de préférence à celle de la tige. Dans le mysore, c'est vraisemblablement au cinnamomum macrocarpum qu'appartiendraient les feuilles que l'on y distille. D'après la même publication, il est probable que la cannelle du Bengale provient du cinnamomum obtusifolium. L'écorce de cette espèce est considérée comme extrêmement variable dans son arôme. Par contre, celle de la racine récoltée dans le martaban est réputée pour aussi aromatique que la meilleure cannelle de Ceylan. En Malaisie, on trouve à l'état sauvage Cinnamomum tavoyanum, Parthenoxylon et Cullilawan. Ce dernier, qui vivrait également dans la presqu'île malaise, aurait une écorce lisse, grise à l'extérieur, d'un brun jaune à l'intérieur, très aromatique. Sa forte odeur de clou de girofle fait penser que son huile essentielle a un pourcentage élevé de génol. On la récolterait sur une échelle commerciale comme épice. Les Malais emploieraient les calices des fruits appelés bunga lawang, fleur de girofle, en thérapeutique et pour la préparation des sauces. Aux îles Fidji, le cinnamomum pedatinervium donne l'écorce nommée massoa dans cet archipel et en Nouvelle-Guinée. Elle serait très aromatique. Ainsi prennent fin les extraits du cannelier de Désiré Bois.